Prions en Bible. C'est le moment des lectures pour la prédication. Trois lectures dans les prophètes, dans l'Évangile et dans l'épître de Paul à Timothée, deuxième. Déjà donc, prophète, Ésaïe, chapitre 55, versets 9 à 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Maintenant, dans l'Évangile, un verset dans Matthieu 24, le verset 35, verset bien connu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et maintenant, dans 2 Timothée, chapitre 3, dès le verset 10, jusqu'au chapitre 4, verset 5. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfant, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprends, exhorte avec patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service.
Quelle joie de pouvoir ouvrir le seul livre qui peut être appelé Parole de Dieu. Le seul livre, c'est la Bible. L'Éternel s'adresse à nous encore aujourd'hui par sa parole, la Bible si profonde, si riche et toujours encore d'actualité. Il est écrit dans Luc 24, 45 que Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Une autre traduction dit « Il leur ouvrit l'esprit pour entendre les Écritures ». Et en fait, nous avons continuellement besoin de cette œuvre du Saint-Esprit lorsque nous nous plaçons devant la Bible. Ça que nous comptons sur lui aujourd'hui encore. Alors dans cette série sur l'Église de Dieu et l'Église rendue visible, nous avons déjà vu ensemble l'Église que Jésus aime. Il s'est donné pour elle, il est uni à elle. Puis nous avons vu l'Église que Jésus construit. Il bâtit son Église, il en est la fondation, il donne le plan. Et si nous sommes encore là, aujourd'hui, c'est qu'il continue à la construire. Parce que lorsque la dernière pierre sera posée, eh bien, elle reviendra prendre son épouse prête pour la gloire. Nous avons aussi vu que l'Église de Jésus l'adore. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, à la suite de l'Église sainte, vous souvenez les Églises sainte qu'on a vues déjà la dernière fois, eh bien, on va en voir quelques autres encore maintenant qui nous rappellent ce que nous avons vu la dernière fois. L'Église, c'est un rassemblement, pas un bâtiment. L'Église, c'est un ensemble de pierres vivantes. L'Église, c'est le temple où Dieu est adoré. L'Église, c'est l'outil de Dieu pour la mission 3D. Adorer Dieu, le perfectionnement des membres dedans et la proclamation de tout le conseil de Dieu dans l'Évangile dehors. Donc l'Église, c'est l'outil de Dieu pour la mission 3D. Adorer Dieu, le perfectionnement des membres dedans et la proclamation de tout le conseil de Dieu de l'Évangile dehors. L'Église, c'est une communauté qui a un but principal, rendre gloire à Dieu. C'est notre but principal en tant qu'Église. L'Église, c'est le lieu d'adoration commun de tous les enfants de Dieu. L'Église, c'est notre priorité le jour du Seigneur. L'Église, c'est des adorateurs centrés sur Dieu, révérencieux, joyeux, qui adorent en esprit et en vérité. L'Église, c'est prendre plaisir en Dieu et lui en nous. L'Église, c'est s'approcher de Dieu comme lui s'approche de nous. L'Église, c'est Dieu qui nous fortifie. L'Église, c'est une forteresse face à l'ennemi. Et l'Église, c'est un lieu où le monde voit qu'il n'y est pas. Et l'Église, c'est un lieu où le monde voit qu'il n'y est pas. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le même aspect de la mission 3D de l'Église de la dernière fois, qui est donc adorer Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, en fait, cherche des adorateurs ici, maintenant. Garçons, filles, hommes, femmes, qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors tu es un garçon, une fille, un homme, une femme, il veut ton adoration maintenant, par l'écoute de sa parole, l'amour et l'obéissance. Dieu nous a créés adorateurs. On a déjà vu ça un petit peu ensemble, que quand Dieu nous crée, il nous a créés adorateurs. Et il attend l'adoration de toutes ses créatures. Malheureusement, c'est vrai que depuis la chute, lorsque Adam et Ève ont choisi d'adorer autre chose que Dieu, depuis la chute, tout homme a le cœur mauvais et adore autre chose que Dieu. Le plaisir, le confort ou d'autres dieux sont plus facilement adorés que l'Éternel. C'est pour cette raison, en fait, que Dieu a envoyé son Fils qui est venu mourir pour des personnes qui ne l'adoraient pas. Pourquoi est-il venu pour des personnes qui ne l'adoraient pas? Afin de les réconcilier avec lui et faire d'eux de vrais adorateurs. Christ est venu pour que nous puissions être de vrais adorateurs. En fait, pour vivre ce pourquoi nous avons été créés, tout simplement. Vous avez déjà utilisé un crayon? Un crayon a été créé pour écrire. D'accord. Si vous utilisez le crayon pour aller planter des légumes dans le jardin, il risque de casser. Ou au moins d'être complètement bourbé et inutilisable, à moins qu'on le nettoie et qu'on le taille. La dernière fois, on a parlé d'une personne, de la Samaritaine. La Samaritaine, c'est un petit peu comme ce crayon qui est utilisé dans le jardin. Elle adorait les relations avec les hommes. Elle ne savait même plus comment ni où adorer Dieu. Mais lorsque vous utilisez le crayon pour écrire, quel plaisir, surtout pour une belle lettre d'amour! De même, lorsque la Samaritaine adore Dieu, c'est tout un village qui est touché par la grâce et la joie profonde qui s'exprime. Car Dieu nous a créés pour l'adorer. Alors la dernière fois, nous avons réfléchi au lieu, à la manière d'adorer et aux fruits de l'adoration véritable. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un aspect central de l'adoration dans l'Église. Nous avons compris que la manière d'adorer Dieu n'est pas à chercher dans notre imagination ou notre originalité, mais auprès de Dieu qui se révèle dans sa parole. Comment l'adorer ? Mais c'est dans sa parole qu'il nous révèle comment l'adorer. Et le mot-clé pour la manière d'adorer Dieu, ce n'est pas originalité, mais obéissance. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous enseigne comment l'adorer. Il nous invite à le chanter. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens 5, 19. À le prier, acte 2, 42 par exemple. À baptiser les nouveaux convertis, Matthieu 28, 19. À célébrer le repas du Seigneur, 1 Corinthiens 11. Tout cela est important dans l'adoration de l'Église, mais aucun de ces éléments n'a la place primordiale. En fait, la première place dans l'adoration de l'Église, c'est la parole de Dieu qui est lue et prêchée dans l'Église. C'est pour ça que prendre sa Bible pour aller à l'Église, c'est quelque chose de fondamental. C'est de la parole que nous allons nous nourrir. C'est la parole de notre Créateur, de notre bien-aimé Rédempteur, à qui nous voulons rendre un culte. Et c'est vrai quel malheur lorsque nous allons visiter des églises que la parole de Dieu n'est pas au centre. Elle est tellement souvent remplacée par l'homme au centre. Un tas d'annonces concernant les personnes, des témoignages qui mettent les personnes en avant, le partage de ce qui est sur son cœur, mais pas dans la parole de Dieu. Vous savez, notre chef... Vous savez qui est notre chef ? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a montré un exemple. Il nous a pas montré un exemple de discours superficiel, mais de prédications qui engagent, qui sont tirées de la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'il parle aux disciples d'Emmaüs, il reprend les Écritures et il explique ce qui le concerne dans les Écritures. Le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul qui disait dans Acte 20 aux anciens, qui sont mis en place pour l'enseignement de l'Église, de prêcher tout le conseil de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, basé sur le texte de 2 Timothée 4. Vous savez, vous avez déjà imaginé un prisonnier âgé, quelqu'un qui est âgé, qui est vieux et qui est en prison. Une situation qui n'est pas facile, disons. Hein. Et il est en prison, en fait, pour l'Évangile. Et il est à peu de temps de sa décapitation. Peu de temps. Et là, il écrit. Il écrit à son jeune collaborateur. Et il dit, car pour moi, me voici déjà offert en libation. Et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son apparition. Cet homme qui a prêché toute sa vie la parole de Dieu pense à l'Église qui reste derrière. Cette Église qui doit continuer à être construite. Et il souligne un point capital. Ce que je viens de lire ici, c'est juste la suite du texte que nous avons lu tout à l'heure dans 2 Timothée 4, les versets 6 et suivants. Mais j'aimerais revenir sur le verset 1 et 2 du chapitre 4, de 2 Timothée. Et c'est notre premier point, la centralité de la parole dans l'adoration. Et voici ce que Paul, cet homme, ce prisonnier, dit à son jeune collaborateur. Il lui dit ceci: « Je t'adjure devant Dieu et devant Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. » Prêche la parole, non pas donne des conseils, fais des beaux discours ou fais du théâtre, mais prêche la parole. Paul fait ici un appel solennel à Timothée. Il lui dit, je t'adjure devant Dieu. Oula, ça c'est pas un mot qu'on utilise régulièrement. Hein? Et je ne sais même pas si vous arrivez à saisir qu'est-ce que ça veut dire, je t'adjure. Eh bien, j'ai été voir dans le dictionnaire, parce que je voulais savoir exactement ce que ça voulait dire. Eh bien, ça veut dire « je te commande au nom de Dieu ». D'autres traduisent « je te somme, je te demande avec force, je t'en supplie, je te recommande solennellement ». C'est ça, je t'adjure. Donc c'est pas juste si jamais tu y penses, je t'adjure. Et si l'apôtre est poussé par le Saint-Esprit ici pour parler à Timothée de cette manière, c'est que c'est très important et il va insister. On ne dit pas seulement je t'adjure, qui est déjà solennel et profond, mais il continue. Je t'adjure devant Dieu, devant le Tout-Puissant. Il le dit devant Jésus, qui va juger les vivants et les morts. Il dit je t'adjure aussi au nom de l'avènement de Jésus. L'avènement de Jésus, vous le connaissez, c'est son retour en gloire. Quand il reviendra dans sa gloire. Il est présent par son esprit maintenant, mais un jour il viendra dans sa gloire. Donc il dit, mais au nom de cet avènement. Et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ça? C'est pour que l'on soit prêt pour cet avènement. Que l'on soit dans la joie qu'il revienne. Donc je t'adjure au nom de son avènement. Et il continue encore, il le dit, au nom du royaume de Dieu. Nous avons ici quatre éléments qui soulignent le « je t'adjure ». Cinq choses qui soulignent fortement ce qu'il veut dire. Donc, il dit, c'est très, 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 très important ce que je vais te dire. Et il dit, prêche la parole. Il veut que Timothée reste fidèle à la parole de Dieu qui lui a été expliquée par sa mère, sa grand-mère et Paul lui-même. Et à la fin de sa vie, l'apôtre Paul lui donne une dernière charge, la plus importante. Prêche la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui savent nager? Si vous savez nager, vous allez comprendre ce que je vais dire. Si vous ne savez pas, vous allez imaginer. Mais si on veut devenir un bon nageur, il faut plonger dans l'eau. On est d'accord? Eh bien, si l'on veut devenir un bon chrétien, il faut plonger dans la parole de Dieu. C'est clair. C'est pourquoi Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit à Timothée, prêche la parole. Et quand est-ce que Timothée est appelé à prêcher la parole? Est-ce qu'il y a des périodes autorisées, puis d'autres qui ne sont pas autorisées? Est-ce que c'est comme un chasseur, hein? Timothée qui se promène là, avec son fusil, puis il voit un beau chevreuil, puis il se dit, ah, attends, est-ce que c'est la période de chasse du chevreuil? C'est comme ça dans la parole ici, il dit, non, c'est tout le temps la période de la prédication de la parole de Dieu. Tout le temps. Prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non. Le terme prêcher ici veut dire proclamer, publier, être un héros. Alors, H, accent aigu, R-A-U-T, et non pas un héros. H, accent aigu, R-O-S, hein, qui sauve le monde, mais un héros qui proclame le message du roi. Hein, le terme prêcher veut dire proclamer, publier, être un héros, et non pas un héros qui sauve le monde, hein, mais un héros qui proclame le message du roi. Un héros, en fait, était un homme, avant qu'il y ait le téléphone, la télévision, les journaux et tout ça, pour publier des informations, c'était un homme qui allait de village en village pour transmettre le message du roi. Et tambour, tram-tatam, tram-tatam, hein. Oye, 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 oye. Écoutez le message du roi. Et il ouvrait son rouleau et il lisait le rouleau royal. Ce messager n'avait pas la liberté de dire autre chose que le message du roi. Il est un messager, rien de plus. Mais un messager du roi, rien de moins. Son message a donc une autorité. Timothée, fait comme le héros, un ambassadeur du Christ qui proclame sa parole à ses sujets. Prêcher la parole, c'est annoncer le message de Dieu. En fait, on ne doit pas inventer notre message, mais prêcher la parole de Dieu. Pas donner notre propre opinion, mais celui de Dieu. Et où est donc cette parole de Dieu? Eh bien, dans le livre inspiré de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, c'est juste avant, verset 16 du chapitre 3. Toute écriture est inspirée de Dieu, dit Paul à Timothée. Et là, moi, j'aime bien juste le terme qui est utilisé pour dire inspiré. Alors, je vous dis juste comme ça, c'est théopneusté, c'est-à-dire soufflé de Dieu, littéralement. La pensée de Dieu donnée aux hommes qui ont écrit la Bible. Il est écrit dans 2 Pierre 1:21, « Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, de Pierre 1:21. Ce que la Bible dit, Dieu le dit. C'est un livre prodigieux, hein? Quand on se rend compte, c'est ce que Dieu dit. Et quand nous adorons Dieu, qu'est-ce qui devra avoir la prééminence? Qu'est-ce qui devra avoir la première place? La parole de l'homme ou la parole de Dieu? La réponse, semble-t-il, devrait être évidente pour tous, hein? La parole de Dieu, bien entendu. Voilà pourquoi la prédication de la parole de Dieu doit être au centre de l'adoration. Et la parole de Dieu est puissante, c'est notre deuxième point, la puissance de la parole. Et pourquoi la parole de Dieu doit avoir la place centrale dans l'adoration? Parce qu'elle est puissante. Regardez avec moi les versets 14 et 15 du chapitre 3 de 2 Timothée. Paul qui dit à Timothée, « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Écoutez bien. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Que peuvent donner les écrits sacrés? Que peut donner la Bible? La sagesse en vue de la foi en Jésus-Christ. C'est le message de la Bible, en fait. Le salut en Jésus-Christ. L'œuvre de rédemption, le royaume de Dieu révélé. La Bible nous indique clairement que nous sommes morts dans notre péché, que nous n'avons aucun espoir en nous-mêmes pour nous tenir innocents devant le juge divin, celui qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a en fait aucun espoir en nous, aucun. La Bible, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous montre notre état de pécheur perdu. Et la question que j'ai pour toi ce matin, est-ce que tu as déjà vécu cela? Te rendre compte que tu es un pécheur perdu. Alors, ce n'est pas la fin du message du salut. Puisque la parole de Dieu détourne nos regards de nous-mêmes qui sommes perdus pour nous tourner vers le seul qui peut nous sauver. La Bible nous indique que Dieu, dans sa bienveillance et son amour, a envoyé son Fils afin qu'il vienne vivre une vie parfaite, pour ensuite mourir sur la croix, lui l'innocent qui a été fait péché pour payer à la place de tous ceux qui croient en lui. Jésus a tout accompli et c'est en lui que nous avons tout. S'il a tout accompli, c'est en lui que nous trouverons tout. Sinon, il n'a pas tout accompli. Il a tout accompli. Alors que la prédication de ce livre soit le centre de l'adoration, car c'est là que se trouve le salut. Et quand je parle de salut, on pense souvent au salut simplement d'être sauvé de l'enfer. Mais le salut, c'est beaucoup plus que ça, chers frères et sœurs. C'est beaucoup plus que ça. C'est aussi le salut dans nos relations les uns avec les autres. C'est-à-dire le renouvellement, la réconciliation. Hein? La réconciliation avec Dieu. C'est une façon de parler du salut. La réconciliation les uns avec les autres. Et même la réconciliation avec soi-même, qui sommes, puisque nous sommes une créature de Dieu. Vous savez, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui pensent. Une folie. La prédication de la parole de Dieu, elle était scandaleuse depuis le début et elle est encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Dans 1 Corinthiens 1, 23 et suivant, il nous a dit que prêcher Christ crucifié est un scandale pour les juifs, une folie pour les païens, mais une puissance pour ceux qui croient. Et dans les premiers siècles, les chrétiens étaient traités d'athées. Drôle, hein? Nous, on n'est plus traités d'athées. Mais c'était traité d'athées, pourquoi? Parce que le centre de leur adoration, c'était la parole de Dieu, puis ce n'était pas des statues, ce n'était pas des dieux, différents dieux. Donc comme ils n'adoraient pas ces dieux-là, ils étaient traités comme athées. Parce qu'ils mettaient la parole de Dieu au centre. Aujourd'hui, on n'est plus traité d'athées, mais bien souvent d'arriérés. Ou je sais quoi d'autre, en fait. Parce que dans la culture où le visuel domine et où le dialogue est roi, comment comprendre que des chrétiens fidèles à la parole de Dieu continuent à demander aux gens de s'asseoir et d'écouter un homme parler pendant une période de temps prolongée? Et en plus, à la fin, il n'y a même pas la possibilité de donner son avis. C'est un scandale. La prédication de la parole de Dieu est toujours encore un scandale. Et pourtant, quoi que les personnes peuvent penser, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, de l'ouvrir ensemble, l'expliquer et l'appliquer à notre vie, à notre volonté. Cela se fait par la prédication, la parole de Dieu. Afin que ce ne soit plus nos pensées, mais les pensées de Dieu qui dominent dans nos vies. Paul souligne à Timothée l'utilité de cette parole prêchée, qui doit être au centre de notre adoration. C'est notre troisième point. Après la puissance de la parole, qu'on pourrait encore développer, pour se rendre compte que cette parole peut transformer même notre intelligence pour notre vie de tous les jours. Comme j'ai dit, le salut, ce n'est pas juste pour l'éternité plus tard, c'est déjà maintenant. Mais voyons ensemble l'utilité de la parole de Dieu selon l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu. Ce sont les versets 16 et 17 qui sont bien connus que nous allons relire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et dans ce texte, nous trouvons quatre termes qui soulignent l'utilité de la parole de Dieu. Les quatre termes qui sont enseigner, convaincre, redresser, éduquer. Les quatre termes enseigner, convaincre, redresser et éduquer. Alors, les deux premiers sont faits en lien avec ce que l'on croit, avec la doctrine qui doit positivement être enseignée, enseignée, et négativement convaincre de faute ceux qui n'enseignent ou ne croient pas à la sainte doctrine. C'est le terme convaincre. La Bible nous enseigne ce que nous devons croire, les réalités selon Dieu, son existence, la création, comment Dieu me voit, le jugement, la mort, l'éternité. Dieu donne son avis sur tous ces sujets et c'est ce que nous devons enseigner. C'est quand même encore lui qui sait vraiment ce qu'il en est. C'est lui le seul vrai Dieu, comme nous l'avons vu à l'étude biblique jeudi passé. Et un exemple aussi intéressant, lors du cours de formation biblique, il y a quelques semaines, dans une discussion, j'ai vu que la parole de Dieu a réussi à transformer une croyance de quelqu'un en face de moi. C'est intéressant. En fait, la personne en face de moi a compris par la parole de Dieu que Satan a été créé parce qu'il avait dans sa tête une erreur, c'était que Satan était partout, omniprésent. En comprenant que Satan était un être créé, il a été convaincu du mensonge qu'il avait compris pendant de nombreuses années et l'a délaissé. Convaincu de son erreur, ce jeune a changé sa doctrine sur Satan et l'a peut-être rendu plus responsable face à ses choix d'ailleurs. Donc vous voyez, il y a des croyances qu'on a qui doivent être modifiées par la parole de Dieu. Ça c'est cette notion de redresser. D'autres exemples d'erreurs, on a souvent des pensées bien trop petites sur l'amour de Dieu, sur sa fidélité, sur sa bonté. Bien trop petit. Mais la Bible est là pour nous convaincre de notre erreur et pour entrer dans une juste compréhension de ses attributs de Dieu, qui est parfaitement bon, quoi qu'il arrive, parfaitement amour, fidèle, saint, juste. La parole de Dieu nous permet d'abandonner nos propres pensées pour prendre celles de Dieu qui sont toujours vraies, bonnes et justes. Alors les deux premiers termes, enseigner et convaincre, parlent de l'utilité de la Bible dans nos croyances, dans notre doctrine, dans ce que nous croyons. Les deux autres termes qui sont redresser et éduquer concernent notre attitude, notre façon de vivre. Redresser en fait, c'est arrêter quelqu'un qui ne vit pas selon Dieu. Par exemple, comment nous utilisons notre argent, notre temps, comment nous utilisons nos mains, nos yeux, nos oreilles, nos pieds, enfin, etc. Dans sa bienveillance, Dieu, dans sa parole, nous indique qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est le bon chemin et quel est le chemin de la destruction, afin que nous nous en détournions pour nous redresser et revenir sur le bon chemin. Donc redresser, c'est en lien avec notre attitude, notre façon de vivre. Éduquer le pendant positif. Non seulement on dit ce qu'il ne faut pas faire, mais il faut se dire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas reprendre sur la mauvaise voie, mais indiquer la bonne voie. Voilà ce qui est juste et bon de vivre selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons très clairement que dans l'adoration, nous sommes appelés à prêcher la parole. Dieu nous indique pas seulement ce qu'il ne faut pas faire, sa parole, mais également ce qu'il faut faire à la place. Et pourquoi Dieu enseigne-t-il, convainc-t-il, redresse-t-il et éduque-t-il avec sa parole? Pourquoi est-ce qu'il fait tout cela? Pourquoi? C'est écrit. Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. En fait, il veut nous équiper pour vivre tous les jours, pour vivre notre vie quotidienne. Il veut nous équiper pour que du dimanche au samedi, nous puissions être un bon mari, un bon père, un bon ouvrier, un bon manager, une bonne épouse, une bonne voisine, un bon élève, etc. Qu'on puisse vivre selon Dieu chaque jour. Ce livre, en fait, nous équipe pour toute œuvre bonne. Toute œuvre bonne. Mais prêcher la parole, c'est pas ce que les hommes recherchent. Et là, nous allons le voir dans un passage suivant, c'est dans 2 Timothée 4, les versets 3 à 5. Nous venons toujours à ce texte, hein, que nous n'avons pas pris exactement dans l'ordre, mais que, sur lequel nous nous appuyons. Et voici ce qu'il est écrit, verset 3 du chapitre 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. » C'est le dernier point, l'attaque de la parole. Ce n'est pas la parole de Dieu que l'on veut, ce sont des histoires, des récits, des fables. Oui, oui, ces récits parlent de Dieu, il y a même de la moralité dans tout cela. Mais ne venez pas avec des notions d'élection, d'imputation ou d'autres patois de Canaan. Hein, il faut se mettre à la page, parler de manière à ce que tout le monde comprenne. Mais ce qui plaît aux hommes ne les sauvera jamais lors du jugement. Ce qui plaît aux hommes ne les préparera pas à faire face aux tourments de la vie. Paul dit à Timothée qu'il viendra un temps où ce seront les désirs des hommes qui les dirigeront. Ce qu'ils veulent entendre et croire, le désir. Et la Bible nous dit que les désirs de l'homme sont mauvais. Il faut une transformation. Il faut remplacer les désirs de l'homme perverti par les désirs du Dieu parfait. Donc Paul dit à Timothée qu'il viendra un temps où ce sera les désirs des hommes qui dirigeront ce qu'ils veulent entendre et croire. Les désirs, ce que j'ai envie. Et la Bible dit que les désirs de l'homme, vous pouvez voir dans Jacques 4 par exemple, hein, sont mauvais. Et il faut une transformation. Il faut remplacer les désirs de l'homme perverti par les désirs de Dieu. Et est-ce que Timothée devait se taire lorsque les hommes ne supportaient pas la saine doctrine? Est-ce qu'il devait simplement dire « Ok, je ne veux pas entendre, donc je me tais ». Bien non! Parce que la parole fondamentale sur laquelle on s'appuie encore aujourd'hui résonne encore. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Convainc, reprend, exhorte en toute patience et en instruisant. Et si ça ne suffisait pas, Paul insiste encore après avoir dit que les hommes allaient chercher toutes sortes de choses selon leur désir, au verset 5. Il lui dit, mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Priez pour ceux qui apportent la parole de Dieu. Priez pour ceux qui apportent la parole de Dieu. C'est tellement important. Pour que nous restions fidèlement attachés à cette parole, à la saine doctrine, que nous soyons sobres et que nous supportions la souffrance causée par ceux qui se laissent guider par leurs désirs. Priez aussi pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu prêchée, afin qu'ils ne l'oublient pas aussitôt, mais que chacun retienne ce que Dieu a transmis par son serviteur pour le mettre en pratique. Nous avons vu ce matin ce texte percutant dans Timothée que la prédication de la parole de Dieu est au centre de notre adoration, au centre. Parce que c'est la parole de Dieu que nous adorons. Dieu que nous adorons. On n'adore pas la parole, on adore Dieu. Et c'est cette parole qui est au centre. Et c'est l'ordre le plus solennel. Hein. Je n'ai pas d'autre ordre que, comme ça hein, dans le Nouveau Testament qui est plus solennel. On a vu cette insistance dans le verset 1 hein, du chapitre 4 qui est donnée par l'apôtre Paul dans tous ses écrits. Prêche la parole. Alors si tu n'es pas sauvé, écoute la parole. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin pour nous donner la vie. Et nous explique, on l'a déjà vu tout à l'heure, nous explique que Dieu a envoyé son Fils pour payer la croix. tous ceux qui sont touchés, qui se rendent compte, je ne pourrai jamais être sauvé. Quand je me rends compte de ce que je fais toute la journée, Seigneur, mais comment tu peux pas? Christ est venu. Il a payé. Croyez en lui, repentez-vous et croyez en lui. Et pour ceux qui sont sauvés de la perdition éternelle par la grâce de Dieu, sauvés de nous-mêmes, sauvés des autres, mettons-nous sous la parole de Dieu pour être corrigés, afin que Dieu nous éduque de la manière de l'adorer, qu'il nous équipe pour les bonnes œuvres, qu'il nous appelle à vivre pour sa gloire, déjà cet après-midi, demain et les jours qui viennent. Vous savez, l'adoration, c'est une rue à double sens. Dans un sens, c'est l'écoute de sa parole, et dans l'autre sens, c'est répondre à sa parole. Et nous le faisons par le chant, la prière, et ensuite la mise en pratique de sa parole dans la vie de tous les jours. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Non seulement écouter sa parole, qui est une chose importante, mais aussi exprimer notre adoration par la prière, par le chant et par l'obéissance à sa parole. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, quelle joie de pouvoir ouvrir ta parole que tu nous as donnée. Une parole qui est vraie, qui est inhérente, qui est immuable. Une parole qui nous guide, qui est remplie de promesses, d'avertissements, d'explications, de textes qui nous permettent aussi de nous rapprocher encore plus de toi dans la poésie. Seigneur, nous te remercions aussi pour les exemples de vie que tu nous as donnés dans ta parole. Merci parce que tous ces exemples de vie, hormis Jésus-Christ, ont eu besoin de ta grâce. Comme nous en avons besoin. Et nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée, que tu as préservée depuis tant d'années. Personne n'a jamais pu détruire la Bible et ne pourra le faire. Et Seigneur, nous te disons merci. Et te prions de nous aider à la comprendre telle que tu le veux. Je te prie, Seigneur, de me guider. J'ai besoin de ta grâce pour apporter ta parole d'une manière qui te rende gloire. Afin que lorsque nous quittions ces lieux, nous disions, oui, c'est glorieux, cela vient de Dieu. C'est Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est cette parole qui nous guide et que nous voulons suivre et aimer. Seigneur, nous te prions pour toutes les églises qui se retrouvent autour de nous, qui prêche ta parole, que chacun puisse être béni, encouragé, fortifié, et que nous puissions, Seigneur, nous réjouir de ton œuvre dans notre région, dans notre pays et dans le monde, par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.